Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias qui est à Marseille. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour. Et on est vraiment content en fait. Bon, c'est de la radio, mais c'est vrai que ça nous permet, Zoom, d'avoir des gens. On aurait dû le faire déjà depuis très longtemps, comme vous, qui ne viennent pas tout le temps à Paris. Donc on est ravis d'avoir des gens un petit peu partout en France sur Sud Radio. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République.
Bonjour Valérie.
Mathieu Alterman, journaliste. Vous êtes également auteur, écrivain. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Et Dominique de Montvallon, journaliste, éditorialiste politique. Bonjour Dominique.
Bonjour Valérie.
On va parler de François Fillon et de ce jugement, de cette condamnation hier que certains jugent sévère, 3 ans de prison. Évidemment, il y a un appel. Son avocat dénonçait un procès bâclé, un jugement, un procès bâclé. On va y revenir évidemment. Qu'en avez-vous pensé? Emmanuel Macron est-il contraint à prendre un virage vert? Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté Alain Bougrain-Dubourg qu'on recevait et qui, lui, estime qu'Emmanuel Macron n'est pas un président écologiste. Et puis, les maires écolos, qu'en pensez-vous? On en a entendu certains s'exprimer. Comment va se passer la pratique des paroles aux actes? On va en reparler également avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aujourd'hui. Mathieu, ça concerne les élections, et en particulier les élections parisiennes.
Oui, les élections parisiennes, je trouve que l'équipe d'Anne Hidalgo devrait un petit peu faire profil bas, parce que quand on est élu avec 48% de 35% de votants, c'est quand même pas un raz-de-marée.
C'est le cas de beaucoup, hein.
Non, c'est pas le cas de beaucoup, justement. Je tiens à rappeler une chose, c'est que l'immense majorité des municipalités en France ont un maire élu dès le premier tour. Le deuxième tour, il faut quand même rappeler ça. En particulier les maires sortants. À Neuilly, par exemple, c'est 62% sur le maire sortant au premier tour. Hein. Bon. Et puis, il y a un truc qui me gêne, c'est que, quels sont les arrondissements qui n'ont pas été remportés par Anne Hidalgo? Ça, c'est intéressant de voir ça. C'est le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 15e, 16e, 17e,
ouais,
soit
parisien.
En gros les moteurs économiques de Paris. Je ne suis pas en train de faire une opposition riche-pauvre, mais il y a quand même...
Il n'y a pas de moteur économique à l'est de Paris.
Il y en a moins qu'à l'ouest.
Ah bon.
Excusez-moi, il se passe plus de choses dans le 16 et dans le 8 que dans le 12.
Ah bon, oui, d'accord, très bien.
À Bercy, ça sent rien.
Bon. Et je rajouterai un autre truc. On peut l'élargir. Oui, à Bercy.
C'est la lutte des classes.
Non, c'est pas la lutte des classes.
Mon propos
vient du fait que vous ne pouvez pas, sur certaines mesures, imposer des choses unilatérales sans concertation avec les maires de l'opposition, surtout quand ces maires sont dans des zones qui, économiquement, pèsent quand même extrêmement lourd. Quand elle prend la décision de fermer certaines zones du Bois de Boulogne, parce que le Bois de Boulogne dépend de la mairie de Paris, il ne faut pas oublier que les arrondissements frontaliers du Bois de Boulogne, c'est le 16e ou le 17e, ou alors des villes comme Boulogne, tout simplement, Neuilly, qui ne sont pas du tout aux mains du clan d'Hidalgo, et qui a un problème. Il y a un problème de gouvernance. C'est ce que je veux dire. Faire attention.
C'est une démocratie, les gens ont voté quand même dimanche.
Il
fallait une prime pour les riches.
Vous avez raison, les gens...
C'est pas un problème de riches.
Il y a des arrondissements où ce n'est pas le camp d'Hidalgo qui gouverne, clairement, et on leur impose des choses.
Mais c'est pas un clan. Faites attention aux employés.
Excusez-moi, en gros, je veux dire, quand elle ferme l'avenue de Clichy à la voiture en double sens, vous avez des gens qui ont des parkings sur cette avenue qui disent on est embêtés, on ne peut pas sortir
pour ce programme.
Des gens ont voté pour ça,
oui. Des gens ont voté pour ce programme.
C'est pas des gens. Oui, mais les gens qui ont voté pour ça ne sont pas des gens qui habitent dans les lieux où on applique les choses.
Mais alors, la ville de Paris, elle appartient à tous les Parisiens.
J'entends.
Vous avez raison. La ville de Paris appartient à tous les Parisiens. Anne Hidalgo ne devrait pas oublier qu'il y a quasiment la moitié de la ville qui n'a pas voté pour elle. Voilà.
Mais j'entendais aussi qu'à Bordeaux, il n'y a que 20% des gens qui ont élu, des électeurs qui ont élu ce maire.
Je comprends que c'est la démocratie, mais il y a quand même un souci moral.
Jean-Luc Benamias,
j'apprends des choses incroyables. Donc sur Paris, il n'y a qu'à l'ouest où il y aurait des emplois créés. Enfin, écoutez.
Non, il y a plus d'entreprises qui viennent à l'ouest qu'à l'est.
Non.
C'est pas moi qui l'invente, malheureusement.
J'essaie de parler de réalité, moi, pas de supposition.
C'est réel.
Quand vous regardez autour de la gare d'Austerlitz et autour de la gare de Lyon, il me semble qu'il y a des pôles économiques extrêmement importants. Et c'est pas fini, je pourrais en prendre d'autres exemples, notamment par rapport à la place de Clichy et à la porte de Clichy. Donc vous êtes en train d'inventer. La Défense, à ma connaissance, n'appartient pas à la ville de Paris.
Non, Courbevoie qui est gérée par la droite.
Prendre comme exemple de l'élection au premier tour, la ville de Neuilly-sur-Seine, c'est extrêmement fort comme exemple. Ça, c'est très très fort. Très 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 fort.
Bon, on va passer on va parler d'autre chose. Ça concerne quand même toujours les élections. Nicolas, vous, c'est quoi ? Je ne sais pas de quoi
vous
voulez
nous
parler.
Oui, alors moi, je suis un peu en retard sur mon coup de... J'ai cherché désespérément un coup de cœur pour la dernière, puis j'ai pas trouvé, j'avais pas l'âme à coup de cœur, donc je vais revenir sur un coup de gueule qui concerne les élections municipales, qui concerne l'abstention, parce que on a entendu beaucoup de choses sur les plateaux dimanche soir sur ce sujet, beaucoup de choses sur l'offre politique, sur la société de défiance, et je pense qu'il y a un moment où il faut mettre aussi les électeurs face à leurs responsabilités. Les premières études qualitatives sortent là sur les résultats électoraux de dimanche soir et on est en train de découvrir qui n'est pas allé voter. Et qui n'est pas allé voter, en gros, il y a deux grandes parties. Il y a l'électorat de ce qu'on appelle le bloc bourgeois, Macron, centre-droit, droite classique, qui est moins allé voter que l'électorat de gauche, qui est assez intéressant, parce que normalement, c'est l'électorat de gauche qui a du mal à se mobiliser. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle le défaut de vote de la France périphérique. Pour dire les choses très clairement, les Gilets jaunes et puis les territoires où les Gilets jaunes étaient très actifs connaissent des taux d'abstention très importants, en tout cas dans cette population-là. Oui, mais... et moi, j'ai juste une réflexion, et je sais que ça ne plaît pas à certains de vos auditeurs, mais quand même. On ne peut pas avoir été à la tête d'un mouvement pour la démocratie directe, pour le référendum d'initiative citoyenne, et ne pas être les votés dans, finalement, la seule élection qui est vraiment une expression de la démocratie directe, pure, qui est l'élection municipale.
Oui. Sauf qu'on a eu hier ce débat, évidemment, au lendemain de l'élection, et la réponse de nos auditeurs, c'est « je ne me reconnais dans aucun de ces candidats ».
Là aussi, moi j'en ai assez de cet argument, mais, non, mais il faut le contrecarrer. Pour une fois, on peut s'en féliciter ou pas, il y avait un choix. Alors, je sais que le choix entre les Verts, les écolos, ça ne plaît pas à tout le monde, la droite, LREM, mais pour une fois, il y avait un choix politique très clivant dans beaucoup de villes. Et quand je vois que, par exemple, dans une ville comme Paris, dont vous parliez, moi, je constate avec vous la même chose. On a élu un maire pour 6 ans avec moins de 30% ou quasiment 30% des inscrits. C'est inadmissible. Et c'est pas inadmissible uniquement du fait des politiques qui ont peu ou prou présenté un programme avec une campagne compliquée. C'est aussi du fait des électeurs qui ne se sont pas déplacés. Et alors, franchement, quand je vois les files d'attente devant les magasins qui ont réouvert pour acheter des fringues, des baskets, et que les Parisiens ou que d'autres dans des grandes agglomérations n'aient pas pris 10 minutes pour aller dans des bureaux de vote où il n'y avait plus personne, moi je trouve qu'il y a un scandale démocratique que les citoyens doivent s'appliquer à eux-mêmes.
Dominique ?
Je dois dire que je ne partage absolument pas
J'en étais sûr.
Non, mais écoutez, ne me prêtez pas des pensées automatiques. Hein. Je ne partage absolument pas votre sentiment. D'abord, pour employer de façon posée, mais un peu votre ton passionnel, je dirais, j'en ai par-dessus la tête de la culpabilisation complète des Français qui ne font pas ce qu'il faut au bon moment, etc. Alors moi, je vais vous dire autre chose. Hein, je ne sais pas, vous vous intéressez au magasin où d'ailleurs les espaces entre les clients qui font souvent la queue à l'extérieur sont respectés. Je prends régulièrement, c'est d'une banalité atroce, mais pourquoi ne pas le dire, l'autobus et le RER. Là-dedans, tout le monde, sans qu'il y ait un pistolet sur la tombe des tombes des gens, porte un masque parce que c'est pas qu'on leur a demandé d'en porter un, c'est qu'ils pensent que c'est nécessaire dans ce confinement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que on savait déjà qu'on était dans une société complexe et on est dans une situation particulièrement complexe. Et j'abrège parce que je sens que je vais partir. Sinon, je voudrais juste vous dire que ça ne me choque pas du tout. Après, les élus sont des élus légitimes, quand bien même ont-ils été élus par 30% au moins des électeurs inscrits. Ça ne me choque pas du tout que beaucoup disent dans les enquêtes auxquelles vous faites référence, ce qui s'est présenté, c'était décevant. Si vous parlez de Paris, par exemple, il est tout à fait clair qu'il n'y a pas eu une offre, ça ne met pas en cause la légitimité d'Anne Hidalgo. Il n'y a absolument pas eu une offre de droite qui tenait la route, mais absolument pas.
Bon, le programme de Rachida Dati est intéressant.
On ne va pas reprendre les discussions qui ont eu lieu hier, etc.
Mais...
Bon, les gens ne sont pas contents.
Il est intéressant pour vous,
parler, c'est autre chose encore. C'est la vie.
Non, mais ceci dit, excusez-moi, mais il a raison. Il a raison, c'est un problème de consommateur. Si le produit ne plaît pas,
c'est bien ça que je dénonce. C'est que vous mettez au même rang la consommation et
l'élection. Mais dans l'esprit des gens, c'est pareil.
Eh bien, c'est très grave. Oui, les citoyens sont pas des consommateurs.
J'ai un auditeur, Xavier, qui me dit.
On ne consomme pas la politique.
Qui dit que vous êtes un peu dictateur.
Oui, complètement.
Il dit à Perpignan, on avait le choix entre RN et LR.
Oui,
on avait le choix. Non, mais à Perpignan, vous qui vivez visiblement voté, je ne veux pas vous prêter d'intention, oui. Plutôt à gauche. Le choix entre RN et LR, qu'est-ce qu'on fait quand on est de gauche? Qu'est-ce que vous auriez fait?
Mais on va voter, on peut voter blanc.
Et moi, non, ce qui mais me... le vote blanc n'est pas retenu, n'est pas pris en compte.
Mais au moins, vous n'êtes pas comptabilisé dans l'abstention. Je veux dire, le devoir...
Mais qu'est-ce que ça change sur
le droit
fond,
de vote, vous vous rendez compte qu'on a été privé de toutes nos libertés pendant 2 mois et demi. On a l'occasion d'aller enfin pouvoir faire un premier geste démocratique et les Français n'y vont pas. Mais quand... C'est extrêmement inquiétant.
Mais qu'est-ce que ça change d'aller voter blanc, Nicolas?
Mais au moins, vous participez à cet exercice démocratique.
Mais ce n'est pas pris en compte.
Ce qui m'amuse, mais surtout, je vais être très France, qui mérite un tout petit peu, c'est que vous êtes talentueusement parfaitement représentatif d'une gauche qui était au fond du trou depuis déjà quelques années et qui voyait arriver les municipales avec inquiétude et qui aujourd'hui est... Et c'est vrai, c'est normal d'ailleurs, cela vu des résultats en regain.
Bah non, il n'y a pas de résultat en regain du tout, vous plaisantez.
Non, mais j'entends... Attendez, on n'ouvre pas la discussion, je dis la gauche au centre.
Et la gauche n'a jamais fait aussi peu.
Et voilà que vous incarnez ceux qui font la morale à ceux qui sont mal à l'aise.
Je ne suis pas en train de glorifier les résultats de la gauche, je vous dis justement qu'avec un taux d'abstention aussi important, ces résultats n'ont pas la valeur que certains à gauche veulent lui donner.
On ne s'en sortira pas pour la République si vous faites la morale.
Qu'est-ce qu'il en dit, Jean-Luc Benignas ?
Moi, je crois qu'il faut responsabiliser les citoyens.
Il va venir, il arrive. Ouais. Je pense que ceux qui ne vont pas voter quand on leur propose de voter ont bien le droit, mais je pense qu'il est légitime de penser que ceux qui ont été votés, donc les maires ou mairesses qui ont été élus, sont extrêmement légitimes. Si on ne participe pas,
c'est un régime censitaire.
Eh bien, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec un régime censitaire. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et par ailleurs, selon les endroits, c'est très différent. Parfois, on est à 20%. C'est vrai que dans les quartiers populaires, c'est extrêmement difficile. Et parfois, on est au-delà de 50% dans la participation. Voilà. Bon, c'était pas facile. C'est vrai que moi, je pense qu'on peut pas dire à chaque fois qu'il y a plusieurs listes qui se présentent, que souvent il y a 6-7 listes qui se présentent au premier tour, on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'expression large d'une possibilité. Bon, ben, il y a des gens qui sont désespérés, qui pensent que le suffrage universel n'est plus bon. Moi, je pense qu'il est toujours absolument essentiel. Et je pense que, je le redis, l'ensemble des maires, que ce soit au premier tour ou au second tour qui ont été élus, sont totalement légitimes.
Allez, on va marquer une pause et on continue notre petit tour de table dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
De retour avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors bon, on a pris un petit peu de temps pour parler de la légitimité ou non du vote. Qu'on continue notre petit tour de table. Jean-Luc Benignas, qu'est-ce qui a retenu votre attention ou de quoi vous aviez envie de nous parler?
Un coup de gueule sur l'expression « Khmer vert » utilisée régulièrement. « Khmer vert », ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Khmer Rouge au Cambodge. Faire référence à l'extermination de plusieurs centaines de milliers de personnes, si ce n'est de millions de personnes, par rapport à l'expression Khmer, je trouve que c'est un peu grossi, un peu excessif. Voilà. Donc, arrêtons de penser, on peut critiquer, on a le droit de critiquer tel ou tel dirigeant vert et telle ou telle pensée verte. Mais de là à parler d'exterminateur, voire de génocide, je trouve ça un peu fort, voilà, je voulais le dire.
D'accord, donc vous demandez à ce que ce mot soit banni quand on qualifie les Verts.
Pondéré en tous les cas.
Pondéré. Dominique de Montvallon, vous, c'était un coup de gueule, et on va en reparler.
Oui, enfin, un coup de gueule, en tout cas, j'exprime un fort malaise devant ce qui se déduit aujourd'hui en haut lieu de la Convention climat. Alors, je résume mes sentiments. Premièrement, j'entends parler de cette Convention climat, je ne comprends pas très bien ce dont il s'agit au début, et j'ai tendance à sous-estimer ou à prendre à la légère cette affaire-là. Deuxième temps, je vois qu'elle se structure, qu'elle s'organise, je trouve ça intéressant, j'apprends que les gens sont tirés au sort sur des listes, et quelles listes et tout, comment. Je note au passage que Cohn-Bendit a été tiré au sort, et puis il a finalement renoncé quand même à ça. Mais bon, bref, ça commence à se structurer un peu. Troisième temps, je me rapproche de notre actualité, je vois, c'était hier à l'Élysée, dans le parc de l'Élysée, Macron qui s'adresse à l'ensemble...
Parlez bien dans le micro, Dominique.
Qui s'adresse à l'ensemble des 250, je pense, qui étaient présents là, et il faisait un compte-rendu en leur disant, je retiens la plupart de vos propositions, sauf trois, enfin bon, peu importe, on ne rentre pas là-dedans, etc. Bon, j'ai dit, oulala, ça commence... Enfin, oulala. Voilà, c'est ambivalent, ça devient très 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 sérieux. Et puis, là, je suis dans une certaine perplexité, parce que j'ai appris de la bouche du président qu'il avait l'intention d'organiser plusieurs conventions de cet ordre-là, Et je veux dire, l'idée que maintenant la vie publique, en bonne et due forme, doit passer par des assemblées issues du terrain, tirées au sort, solidement coachées.
Oui,
solidement
absolument.
Coachées chaque fois. On verra pour les autres thèmes ce qu'il en est. Et que ça puisse se généraliser. Bon, ça m'inspire, je reviens sur le mot, un certain malaise. Moi, je suggérerais une chose, je termine là-dessus, c'est que tant qu'à faire, le président et puis ceux qui organisent ça fassent une convention qui, de toute façon, sera ensuite soumise aux parlementaires, mais une convention sur le mode de scrutin et sur notre régime institutionnel. Parce que si maintenant c'est le tirage au sort et c'est des assemblées indistinctes et sympathiques de gens, moi j'ai trouvé formidable, je termine là-dessus, trouvé formidable que les uns les autres qui en font partie nous expliquent on a vécu une aventure humaine formidable.
On s'en fout.
Oui, ben, je m'en doute pas, ils ont eu le temps de se réunir pendant 6 semaines ou 9 semaines pour discuter de ça, ça devait être, il y avait une dynamique de groupe qui a dû se constituer, mais je dis pas non. Comme citoyen, hein. Ouais. Je dis malaise.
Oui, mais alors, on peut parler hein, de cette convention citoyenne et d'Emmanuel Macron qui a reçu
et
à l'Élysée.
Et les autres qui s'annoncent.
Qui a reçu à l'Élysée hier c'est les membres de cette convention en acceptant la très grande majorité, sauf deux, le 110 km/h et la taxation pour financer les l'écologie, les dividendes. Que vous en pensez quoi? Vous avez vu, c'est une ce matin de la presse. Libération à la poursuite du diamant vert.
Je partage le même malaise. Autant je trouve les propositions et le travail qui a été fait plutôt de qualité.
Oui,
il y a des choses intéressantes.
Moi aussi.
Et effectivement, l'histoire du tirage au sort, ça remonte à Athènes, hein, dans la Grèce antique. Parfois, on tirait au sort aussi. Ça leur paraissait complètement démocratique. Donc, pourquoi pas? Moi, ce qui me gêne quand même, c'est le rapport avec le régime représentatif. C'est-à-dire que je vous entends parler de convention citoyenne. Et je suis content d'ailleurs que vous repreniez les idées de Mélenchon, Dominique. Mais la convention citoyenne pour réformer la Constitution...
Mélenchon n'a pas toujours dit des sottises.
Mais la convention citoyenne, la meilleure des conventions citoyennes qu'on ait aujourd'hui, avec tous ses défauts, ça s'appelle le Parlement. C'est-à-dire qu'à un moment, on se demande quel est le rôle du Parlement. Et je vois que Jean-Luc Benamias est avec nous. Il y a une troisième chambre qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental.
Qui va être d'ailleurs aménagé.
Qui va devenir la chambre des conventions citoyennes, si j'ai bien compris la proposition. Oula, qui était aussi chargée de ce dialogue avec la société civile. Donc, tout ça, on sait que ces chambres ont du mal à fonctionner. On sait qu'il y a des blocages qui irritent beaucoup Emmanuel Macron. Il trouve ça trop long, il trouve ça trop complexe. En même temps, s'il y a des règles, c'est aussi parce que le régime démocratique l'impose. Ouais, moi, je suis mal à l'aise avec la place que prend cette irruption citoyenne, non maîtrisée, non représentative, parce que c'est fait par des instituts de sondage. On vous dit, vous faites partie d'un échantillon représentatif, qui décide que c'est représentatif? Ça, vous n'en savez rien. Ouais. Et puis ensuite, on vous tire au sort à partir de là-dedans.
On vous tire au sort et après, on vous coach. Il y a cette
et ensuite, on oriente les débats, bien sûr.
C'est un pur gadget. Enfin, on va
Mathieu
arrêter.
Alterman.
Au bout de 6 semaines de réunion, on arrive à une quantité qu'on pourrait avoir à 3 heures de brainstorming avec des gens spécialisés dans un bureau.
Regardez, les propositions, elles sont franchement, moi, je ne suis pas favorable à ça, mais je les trouve assez bien faites, les propositions.
C'est un gadget pour faire croire qu'on s'inspire un peu du modèle suisse, on dit regardez, on va et au final, bon, voilà, c'est quand même de la communication.
Jean-Luc, vous en pensez quoi?
D'une part, c'est pas 6 semaines, c'est plusieurs mois. Évidemment, il y a eu l'espace confinement qui a fait que c'était par Zoom et pas en présence directe, mais c'est donc plusieurs mois. Mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Sur le côté, l'expression globale est plutôt intéressante. Ça ne remplace pas les parlements déjà existants, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, voire le CESE, même s'il y aura quelques changements dans le CESE, mais tout le CESE ne sera pas tiré au sort. Les chefs d'entreprise ne vont pas disparaître, les artisans ne vont pas disparaître, les syndicats agricoles et de salariés vont pas disparaître. Donc le CESE va un tout petit peu changer. On verra dans les semaines qui viennent ce qu'il en est. Mais ce qu'on en tire de la convention citoyenne, c'est que évidemment les gens étaient contents d'être ensemble. Ils ont été tirés au sort. Vous l'avez dit.
On n'est quand même pas là pour organiser des thérapies de groupe, non?
Mais nous aussi, on est contents d'être ensemble.
Valérie, je suis entièrement d'accord. Je trouve que les termes pour l'instant employés dans cette émission sont des termes modérés par rapport à la convention. Je trouve ça bien parce qu'il y a eu des termes vraiment assez insultants. Voilà.
On a dit gadget. Mathieu Alterman a dit gadget. Donc c'est pas insultant, mais c'est quand même
gadget dans la forme.
Je pensais les autres. Je parlais des autres prises de parole avant Monsieur Alterman.
Mais par exemple, il faut changer nos habitudes de consommation, voire de surconsommation.
C'est très intéressant.
Oui, voilà. Oui, oui.
Ça
d'accord.
Me répond.
Non, mais combien voilà. Ça coûte pour arriver à des phrases pareilles, quoi.
Ouais. Voilà.
Se nourrir est un besoin vital qui génère de nombreuses c'est émissions bien. De gaz à effet de serre. Comment réinventer un dispositif alimentaire durable et accessible? Il n'a pas tort, Mathieu Alterman, c'est quand même...
C'est des lapalissades, quoi.
Quand vous descendez dans le rapport, proposition par proposition, ça se décline par des propositions très concrètes qui sont d'ailleurs pour certaines très exact. Clivantes et qui s'attaquent, y compris, pas uniquement à une écologie de la répression du consommateur, mais à une écologie qui s'applique à la production. Moi, je trouve qu'il y a dans ce rapport, il y a du travail pour tous les lobbyistes, hein, ceux qui défendent les consommateurs, ceux qui défendent les entreprises et les industriels. Donc, ça me paraît plutôt équilibré. Et ensuite, il faut voir ce que le débat public en fera. Mais je trouve que les propositions ont du corps.
Ce qui est
voilà.
intéressant, c'est que Emmanuel Macron ait dit devant oui. les conventionnels, les citoyens, on va dire, c'est un beau mot, citoyens, ait dit mais on va faire ça. C'est un début, il va y avoir plusieurs conventions. Et on est. Mais pourquoi pas, je dirais, mais attention. En tout cas, je le relève avec force, pas avec gravité, mais avec force. On est sur une direction nouvelle. Attendez, si on dira que bien sûr l'Assemblée ça compte, bien sûr le Sénat ça compte, etc. Mais maintenant, ce sont les assemblées citoyennes qui vont nous préparer la présidentielle de 2022.
Vous avez un machin quand même de 150 personnes qui propose de créer, parmi les propositions, un observatoire de la restauration collective. C'est formidable, mais on va recréer encore des organismes et recréer des usines à gaz. Et puis avec quels moyens ? Sur le fond, c'est bien. Après, est-ce qu'on va avoir les moyens de le faire ? Et est-ce que le président de la République va effectivement aller au bout ? On y revient, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez de cette convention citoyenne ?
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, une information, le quartier de la Défense à Paris est bouclé et évacué en ce moment même, puisqu'un homme aurait été aperçu avec une arme automatique, un gilet sombre et un masque noir. Donc le quartier de la Défense, si vous êtes parisien en région parisienne, évitez ce quartier qui est pour l'instant bouclé. On vous en dira plus quand on en saura plus. On va parler de François Fillon dans un instant, mais je voulais juste quand même qu'on précise le rôle d'Emmanuel Macron hier, enfin son attitude face à cette convention. Il est clairement en campagne.
En tout cas, non. L'impression qu'il m'a donnée, j'ai dit, j'ai pas été le seul, que cette convention climat, convention citoyenne plutôt, avait été solidement coachée par des gens de qualité d'ailleurs, mais on envoyait le résultat. Ouais. Et ce qu'on a vu hier, mais c'est taquin de ma part, c'est pas agressif, hein, c'est que le coach-chef s'est dévoilé, on s'en doutait un peu, parce qu'à la fin, il leur a dit, voilà, j'ai tout entendu, c'est très bien votre travail, formidable, je retiens 97% de vos propositions, je vous explique pourquoi j'en retiens. Ouais, donc c'est le coach-chef... Ouais, c'était intéressant, c'était d'ailleurs très intéressant,
mais je
ne reviens pas sur mon idée de malaise parce que ça n'a pas disparu à la faveur de notre bout de conversation.
Non mais Jean-Luc Benhamias, politiquement, Emmanuel Macron, il est obligé de le prendre ce virage vert.
Mais il peut toujours le dire, mais on verra dans la réalité. Je suis d'accord avec Dominique de Montvalon, moi je veux bien qu'il fasse le coach par rapport à cette conférence citoyenne, très bien. On verra après dans les prises de décision. C'est bien beau de dire « je prends ». Moi, je ne peux pas considérer comme ça, à la rapide, qu'on va prendre 146 propositions sur 150. C'est beaucoup plus compliqué. Moi, je veux bien qu'on passe par un référendum. Ça existe en Suisse, ça existe dans beaucoup d'États américains. Mais les Français ne sont pas tellement habitués à ça. Voilà, moi, je suis ça avec, beaucoup de bienveillance, mais je suis, comme Dominique de Montvalon, dubitatif. Réellement, effectivement, par rapport à la réalité. C'était très bien coaché par des hommes et des femmes tout à fait intéressants, hein, de grand niveau. Mais est-ce que tout ça répond directement à un certain nombre de questions que se pose la société ? On en parlait tout à l'heure par rapport à l'abstention. Eh bien, écoutez, la question se pose.
Ouais.
Oui, enfin, c'est, pour moi, je le répète, c'est de la communication. Ce qui se passe, c'est que l'année dernière, lors du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des grands cahiers où les gens ont pu remplir ce qu'ils attendaient. Ils se sont servis de ces données-là pour mener aujourd'hui à ça. Et en même temps, pourquoi pas ? C'est un début de campagne pour se faire réélire, faire un petit peu de démocratie participative. Maintenant, je sens quand même un grand cynisme derrière.
Moi, je trouve que c'est très pratique, l'écologie, quand on part en campagne, parce que c'est le temps long. Donc, on n'est pas obligé de prendre des engagements tout de suite. D'ailleurs, dans les propositions qui ont été avalisées par le président de la République, elles sont toutes pour les plus courtes à l'échéance 2025, pour les autres à 2040. Finalement, on aurait envie d'entendre le président de la République sur ce qu'il compte faire d'ici 2022. Ouais. Parce que s'il y a une urgence écologique, moi, je ne sais pas s'il y a une urgence écologique, je le pense. Je sais qu'il y a un débat. Mais si on dit qu'il n'y a plus de débat et qu'il y a une urgence écologique, on a encore 2 ans pour agir. Qu'est-ce qu'il fait d'ici 2022?
Ouais. Mais il faut ajouter, parce qu'on l'a peu fait jusqu'ici, c'est que ça a été jeté en l'air, on va voir ce que ça va donner, comment ça va retomber, c'est que le président a annoncé qu'il allait faire un référendum ou deux, en tout cas un référendum, et si j'ai bien compris, avec différentes cases. Un référendum sur quoi, contexte, et puis on sait, les Français étant ceux qu'ils sont, quel est le sort la plupart du temps des référendums, quelles que soient leurs bonnes intentions initiales.
Absolument.
Absolument. Allez, on va parler donc de cette condamnation hier qui est tombée. L'ancien Premier ministre François Fillon, son épouse et son suppléant Marc Joulot ont été jugés coupables lundi lors de leur procès pour des soupçons d'emploi fictifs. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, tandis que son épouse a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt et il y a une amende de 375 000 euros et une peine d'inéligibilité de 10 ans qui ont été également prononcées. Donc il ne va pas en prison pour l'instant, mais c'est vrai que les 2 ans de prison font que la prison n'est peut-être pas évitable. Alors est-ce que les politiques aujourd'hui sont victimes d'une plus grande sévérité? Est-ce que la peine, selon vous, est juste? C'est grosso modo ce qu'il méritait, ce que la loi prévoyait. Je ne sais pas qui veut commencer.
Vote le code pénal? Nos parlementaires, dont M. Fillon était membre. Donc les peines qui ont été prononcées hier ne tombent pas du ciel, elles sont inscrites dans la loi. Et à partir du moment où elles correspondent aux faits, on qualifie l'infraction et on n'applique une peine. Donc moi, j'ai de l'avis de beaucoup de spécialistes du monde pénal et judiciaire, les peines prononcées sont très importantes. Elles sont inédites dans l'histoire politique du pays par rapport à un ancien Premier ministre, mais elles ne sont pas manifestement, elles n'apparaissent pas disproportionnées, par rapport aux faits. Bon, après, c'est une affaire, c'est la justice qui juge, c'est les juges qui en décident. Après, moi, je pense qu'il y a un petit souci politique de compréhension pour l'opinion publique. C'est que ce délibéré arrive quasiment simultanément avec les révélations de Madame Houlette, qui jette plus qu'un doute sur la manière dont l'instruction a été menée, dont l'enquête a été menée, et qu'effectivement, ça nous pose, au sein du débat démocratique, il y a une certaine confusion. Mais le procès en lui-même s'est déroulé d'une manière tout à fait ordinaire, je ne parle pas de l'enquête. Et manifestement, les juges ont décidé. Moi, juste une dernière chose, je trouve que la vraie problématique, alors je serais très minoritaire, c'est la peine d'inéligibilité. Parce que là, pour le coup, et c'est un débat qui existe récurrent, là, les juges, pour moi, font une forme d'immixtion dans la vie politique. C'est-à-dire qu'on condamne... condamne un élu parce qu'il a commis des infractions pendant ses mandats ou hors de ses mandats, moi ça ne me pose aucun problème, y compris à de la prison ferme, qu'on décide que cet élu, parce qu'il a été condamné alors qu'il va purger sa peine, sera inéligible pendant 10 ans, ça c'est on se situe plus dans le champ démocratique et politique que dans le champ judiciaire, mais c'est un avis purement personnel.
On estime que vous avez commis une faute impardonnable.
Bien sûr, il y a des arguments pour
mais c'est vrai que la question
il y a quand même, on sent que l'émotion est très forte, qu'on veut en faire un exemple. Alors moi je pense que la peine elle est forte, mais elle est juste, bon, pour ma part. Mais comparons par exemple avec l'affaire Balkany, c'est intéressant, l'affaire Balkany, c'est sur la fraude fiscale sur des biens privés, et il a dû faire de la prison parce qu'il y a eu un mandat de dépôt. Là, il n'y a pas de mandat de dépôt. Et c'est le détournement d'argent public. Il y a un vrai souci. Pour la part de l'électeur, les gens qui lisent les infos, ils disent, on comprend pas bien. Parce que quand même, le détournement de fonds publics, c'est plus grave que de la fraude fiscale sur des biens privés au départ. Ouais. Bon, il y a quand même...
Il y avait peut-être pas le même risque de départ du territoire français pour M. Balkany que pour M. Fillon.
Oui, mais il y a quand même...
Peut-être.
Il y a quand même un sentiment d'émotion forte. On se dit, voilà, c'est un ancien Premier ministre, il va payer. Etc. Bon, même si, encore une fois, effectivement, il y a un emploi fictif, c'est flagrant. Enfin, bon, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, c'est une peine... c'est une peine sévère, mais juste, comme vous l'avez dit, finalement, Valérie, c'est ça. C'est que...
On n'a pas été habitué à ce que les politiques.
C'est ça. Pendant des années, les gens n'avaient rien en France. Il y a des pays où on met des anciens premiers ministres en France. En Israël, on a mis des premiers ministres en France. En prison.
Oui, Jean-Luc Benamias.
On oublie quand même un peu l'histoire. Excusez-moi. Je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant. C'est assez pondéré, c'est bien. Mais M. Carignan a fait de la prison, rappelez-vous, à Grenoble. Ouais. Ça ne l'a pas empêché, quelques années plus tard, c'est-à-dire à ces élections-là, de se représenter. Et puis, n'oublions pas non plus M. Michel Noir, à Lyon. Je ne parle pas de petites villes, hein, je parle de grandes villes. Voilà. Donc, après, l'histoire réelle par rapport à M. Fillon et l'histoire de vengeance interne aux dirigeants de la droite française de l'époque, tout ça, évidemment, chacun l'a en tête, mais voilà, c'est à la fois très lourd et à la fois, monsieur, pour l'instant, il y aura sans doute appel, évidemment, c'est même sûr et certain, et pour l'instant, monsieur Fillon ne va pas en prison.
Oui, Dominique.
Vous me demandez
est-ce que la peine est. Alors, ce qui est intéressant, et vous avez tweeté sur le sujet, c'est-à-dire le lien avec les affaires du PNF. C'est-à-dire, est-ce que,
je partage ce qui a été dit. Est-ce qu'elle est juste? J'en sais rien. C'est à chaque Français de se faire une idée. Et puis est-ce qu'elle est sévère? Évidemment, elle est sévère. Il y a deux autres éléments que je voudrais ajouter. C'est que le personnage, la personnalité de François Fillon. C'est quelqu'un qui, de tout le temps, mais on le vérifie là, a été très solitaire, très secret, pudique, on peut le dire comme ça, mais très peu partagé au bon sens du terme. Hein, au bon sens, il ne joue pas en équipe.
Ouais.
Et bon, je pourrais ajouter d'autres éléments qui ne sont pas accablants. La situation est suffisamment accablante pour lui. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que psychologiquement, il n'arrive pas à inspirer à l'ensemble des Français, y compris à ceux qui ont voté pour lui ou qui s'apprêtaient à voter pour lui, une forme de sympathie spontanée qui aurait pu venir. Il y a un mystère du personnage Fillon, n'oublions pas quand même ce qu'il disait sur ce terrain-là Sarkozy, qu'il avait nommé Premier ministre et qu'il avait gardé comme Premier ministre pendant 5 ans. Et puis, Et l'autre chose qui me frappe, c'est que je pense aux dégâts, je le dis avec mesure, mais aux dégâts qu'il a commis vis-à-vis, c'est une réalité objective, vis-à-vis de ce qu'il est convenu d'appeler le peuple de droite. Comme j'ai suivi à l'époque de près la campagne présidentielle de Fillon, c'est vrai que j'ai été surpris au début, puis j'ai constaté, puis j'ai été un peu estomaqué. Il avait déclenché dans une fraction, c'est pas l'ensemble du peuple français, mais il avait déclenché un véritable enthousiasme. Absolument. Il y avait un processus Fillon, quelque chose et tout. Et il tenait à la tribune des propos très radicaux, y compris sur le terrain du droit, de la justice, de la truc.
Et il avait un programme.
Et après, on ne réécrit pas l'histoire, je ne réécris pas l'histoire. Il s'est obstiné, j'allais dire enferré. En tout cas, il a provoqué des dégâts qui sont. J'en rajoute pas, sa situation est déjà terrible, mais qui sont objectivement considérables, dont la droite mettra beaucoup de temps à se remettre.
Oui, absolument. On a un auditeur en ligne avec nous, François, bonjour.
Oui, bonjour. Donc, je peux rajouter quelques petites choses.
Oui.
C'est que ce brave monsieur, déjà, il a parlé de rallonger la retraite pour les braves citoyens. Et que ce monsieur, donc, pour son épouse, qui n'a jamais rien fait de sa vie, elle perçoit sûrement une retraite sur les fonctions qu'il lui avait attribuées. Des fonctions, il ne faut pas oublier, fictives.
Ouais.
En plus, ses enfants, ils ont bénéficié de l'argent de l'Assemblée nationale pour faire leurs études. Moi-même, mes propres enfants, j'ai dû faire des prêts et des emprunts pour payer les études à mes propres enfants. Voilà, donc si ça choque pas le peuple, moi ça me choque particulièrement. Et pour terminer, il a complètement désavoué le monde politique et par son action. Et nous-mêmes, on est très... Moi je suis particulièrement choqué et très heureux qu'il ait une peine que je trouve normale de 2 ans de prison ferme. Parce que le moindre citoyen qui commet la même chose, il irait immédiatement en prison. Donc il s'estime heureux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Mais c'est intéressant, en tout cas, la question que vous soulevez, effectivement, de savoir si elle va toucher sa retraite de l'Assemblée nationale ou non.
Non, mais c'est un point de vue intéressant que ce monsieur, parce qu'effectivement, les gens qui sont contre la politique appliquée par François Fillon se disent, bah attendez, il se moque de nous, il n'applique pas ça chez lui. Je pense que l'autre souci, c'est que effectivement, il avait un programme, il y avait un vrai espoir Fillon lors de la campagne. Et on a tous l'impression de, que c'est quelqu'un d'intelligent, très capable, mais qui a fait passer son train de vie avant tout, finalement. Et on se dit, d'ailleurs, c'est ce que disent les proches, hein, les gens de, comme de son parti politique disent, on le savait, il y a un vrai problème avec l'argent. C'est terrible parce que c'est à la fois terrible pour les gens qui ne l'aimaient pas, comme le monsieur, bon, ils disent, bon, c'est injuste, et les gens qui l'aimaient bien se disent, pourquoi lui, en fait c'est un, on est un peu tous assommés. Pourquoi lui qui incarnait l'espoir se trouve finalement pire que les autres
quand il était en Cahuzac, ministre des Finances.
Quand il était en ascension politique, ça, jusqu'au primaire à peu près, quand il a contribué à écarter Sarkozy et d'autres, et Juppé d'ailleurs, y avait quelque chose qui semblait se passer, mais c'était incroyable la façon dont il était seul avec un tout petit groupe, même vis-à-vis du parti politique qu'il entendait représenter, et au-delà, puisqu'on est candidat à l'élection présidentielle, c'est une large fraction des Français. C'est une démarche, c'est... Là aussi, je reprends le mot, mais dans un autre contexte, qui inspirait et inspire le malaise.
C'est en fait, vous regardez un film, vous avez un héros, et puis au dernier moment, vous vous rendez compte que c'est le méchant. Oui. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est,
Nos auditeurs disent que c'est peut-être pas le héros pour tout le monde. Il y en a qui
bien sûr,
pas.
Mais il y en a.
Mais il y avait effectivement pour les gens de droite, c'était. Vous avez raison.
En tout cas,
ça avait
même
été
ceux
un,
qui ne l'aimaient pas n'imaginaient pas la situation qui a surgi depuis déjà 2 ans.
Voilà, mais il a fait appel, donc on verra la suite. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On continue à commenter l'actualité. Parlons de ces maires écolos, de ces maires verts. J'ai pas dit que maire, Jean-Luc Benamias. On y revient dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercov. Je suis avec Jean-Luc Benamias, Nicolas Corato, Mathieu Alterman et Dominique de Montvallon. Donc, de nombreuses villes ont élu un maire vert. Un maire vert comme à Bordeaux, Pierre Humic, qui veut alerter ses administrés sur les dangers de la 5G. C'est également le cas de la maire de Besançon. Des programmes 100% bio dans la restauration, réduction de la place de la voiture, 100% marchable et cyclable. Est-ce que toutes ces intentions sont applicables? Alors peut-être Jean-Luc Benamias, vous êtes avec nous depuis Marseille. Est-ce que c'est un nouvel avènement? Ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure Mathieu Alterman, c'est-à-dire une majorité va devoir accepter ces décisions.
Depuis Marseille, où on aimerait bien savoir quel sera le résultat à Marseille, car
absolument.
Vous avez bien vu que c'est la dernière ville due à la loi PLM, qui est très, très compliquée. Bon, on y reviendra peut-être dans une autre émission. Bien, deux exemples quand même. Savoir si les Verts sont capables, hommes ou femmes, de diriger des grandes villes. Vous savez, ça fait quand même à peu près 50 ans que l'écologie politique existe depuis l'élection présidentielle de René Dumont. Bon, 50 ans, ça commence à devenir un âge relativement adulte. Je prends deux exemples de réussite. L'exemple de réussite, c'est Éric Piolle, à Grenoble. Est-ce que les citoyens de Grenoble n'ont pas reconduit Éric Piolle au bout de 6 ans de mandature? Si, et très largement. Je prends un autre exemple avec une femme qui s'appelle Marie Blandin. Quand elle a géré la région Nord-Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas été laissée après, quand elle a perdu, laissée sans dessous-dessous. Donc, globalement, moi, je pense que tous ceux qui ont été élus ont les capacités, au moins autant que les autres hommes et femmes politiques. Après, on verra. Vous avez citer, Valérie, quelques exemples qui sont des exemples évidemment un peu costauds. La 5G, c'est un vrai débat, mais bon, je pense pas qu'une mairie se joue uniquement sur savoir si on met en place la 5G ou pas. Donc, c'est plus sur leur capacité en tant que maire et mairesse à répondre à l'opinion publique et aux électeurs et électrices en général, et pas en particulier. Moi, je leur fais confiance. Évidemment, ça ne vous surprendra pas.
Ce matin, je voyais un tweet de quelqu'un qui disait « Je regarde la fiche Wikipédia de Grégory Doucet, le nouveau maire écolo de Lyon. Il a 47 ans. Il n'avait jamais travaillé en entreprise. Il n'a fait que de l'associatif de Katmandou à l'Afrique. Même profil pour Yannick Jadot. On est face à des ados attardés. » C'est le jugement. Mais c'est vrai que quand vous voyez Grégory Doucet qui dit « Je veux faire de Lyon la ville des enfants », et certaines phrases,
Casimir,
le
enfants.
Clivage qui fait sens en politique, dit-il, c'est celui entre les terrestres et les non-terrestres. on est en droit de se poser des questions, pour reprendre l'idée de malaise.
Le vrai problème, c'est que ces gens-là vont se trouver confrontés au réel et que ça va leur faire bizarre.
Mais ils sont déjà dedans.
Mais non, quand vous dites qu'il y a un débat à avoir sur la 5G, non, il n'y a pas de débat à avoir à la 5G. Vous savez, on a fait un an de débat ou je ne sais pas combien de temps sur les compteurs Linky.
Moi, je veux bien un débat sur la 5G en tant que citoyen, ça m'intéresse.
Comme les compteurs Linky, ou les arguments des contre Linky relèvent quand même de la psychiatrie. On est quand même là, on va arrêter de faire des débats sur la 5G.
Mais c'est vrai que c'est ridicule.
Les Français ont voté, ils veulent un débat sur la 5G dans certaines villes. Vous avez suivi les résultats.
Les gens qui ont voté pour les maires écolos, c'est pas un problème, ils s'en foutent de la 5G.
C'est
ridicule. Expliquer ça en Asie, qu'en France, on est en train de faire des débats.
On est peut-être un pays attardé, mais au moins on débat.
Oui, c'est Astérix, quoi.
Dominique, vous en pensez quoi ?
Je pense que les Verts ont l'avenir pour eux à deux conditions. Sûrement plus que deux, mais je n'en mentionnerai que deux. Premièrement, que les maires aujourd'hui, peut-être d'autres demain, à des postes plus élevés, quand ils s'adressent du poste où ils ont été élus à leurs concitoyens, à leurs administrés, les prennent en compte tous. Et ils ne parlent pas au peuple vert, ils parlent à l'ensemble des habitants, par exemple, de Lyon. Et ainsi de suite. Et le jour venu, si le jour vient, au moment de la présidentielle, il ne s'agira pas de s'adresser à ceux qui vibrent devant la couleur verte et ce que ça signifie, après tout, pourquoi pas, mais il s'adressera à l'ensemble des Français. Donc là, de ce point de vue-là, ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais il y a du boulot encore, il y a du boulot. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils fassent un peu le ménage. Alors le ménage, ils ne vont pas le faire en virant des mecs, etc., mais... Et il faudra quand même qu'une décantation se produise en leur sein. Il y a des gens qui sont mis un masque vert et qui ont réalisé leur droit le plus strict, mais moi j'ai le droit de pas les récuser, qui sont en réalité d'ultra-gauche ou d'extrême-extrême-gauche, etc. Il y a des gars qui sont bizarres. Alors, ils sont une minorité, hein. Ils sont une minorité là-dedans.
C'est quoi bizarre?
Je voudrais savoir. Alors, je vais le prendre plus globalement pour justement pas m'intéresser
à Extinction Rébellion, par exemple.
Non, mais voilà. Extinction Rébellion, absolument. Oui. Je voudrais savoir quel est le point de vue parce qu'ils veulent aspirer demain à être candidat à l'élection présidentielle. Et qui sait, et peut-être à la gagner, s'ils trouvent un candidat fédérateur. Quelle est leur position vis-à-vis de l'immigration irrégulière? Quelle est leur position vis-à-vis des islamistes qui marquent des points? Quelle est leur position vis-à-vis de la laïcité et du communautarisme? Bon, j'arrête. La plupart d'entre eux, je sais ce qu'ils pensent, y compris Jean-Luc Benamias, mais j'ai fini. Mais beaucoup d'autres, c'est pas clair. Il s'agit donc pas seulement de la 5G.
Alors moi, j'ai quand même une inquiétude que je dois. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Évidemment qu'ils peuvent être maires, il y a pas de problème. Mais on a parlé des groupuscules plus extrémistes comme Extinction Rébellion. Je pense que ce qui risque de se passer, c'est que ces groupuscules trouvent que finalement ces maires-là, en gros, sont des vendus, sont pas assez verts, sont trop modérés, sont trop sérieux. Voilà, trop sérieux. Et on peut avoir une multiplication de ces groupes, justement, qui sont aujourd'hui minoritaires. Moi, c'est ce qui me fait peur. S'il s'avère que les maires verts, finalement, font très bien leur travail, mais n'arrivent pas à satisfaire une partie des électeurs ou de leurs fans très, très excités, on peut avoir des problèmes.
Il faut qu'ils s'adressent à l'ensemble de la population et pas aux ultras.
C'est uniquement dû, dans l'électorat écolo, ça, des gens qui seraient un peu plus extrémistes que ceux qui ont été élus. Regardez à droite et à gauche, ce n'est pas vraiment uniquement dans l'électorat écolo, hein. Ou alors je ne comprends pas la société.
Oui, mais Jean-Luc Benamias, les ultras ailleurs, ils sont bordurés.
Ils ont des partis.
C'est ce qu'on attend des Verts.
Ils ne sont pas super bordurés. En ce moment. En ce moment, ils ont été libérés, les ultras ailleurs, non ? Éric Zemmour, il n'est pas très borduré, Dominique.
Il ne représente pas la droite républicaine.
Ah bon ? Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein.
Mais en tout cas, on va voir, effectivement, avec ces maires verts, ils vont être jugés sur pièce. On va voir ce que ça va donner.
Ils peuvent réussir s'ils sont sérieux.
Il y a un petit réflexe, un peu petit bourgeois, quand même. Moi, je lis l'article de ce matin, pardon Dominique, dans le Figaro, sur la peur.
Il pas au Figaro, qui est un excellent journal.
Mais c'est un excellent journal que je lis tous les matins.
D'ailleurs, vous l'achetez, vous le lisez.
Bien sûr. La peur dans le Bordeaux chic. Alors, vous lisez ce truc.
On a l'impression de se retrouver dans ce titre et dans cet angle.
On a l'impression de se retrouver en 1981. Ouais. Vous savez, avec des gens qui s'imaginent que les chars vont arriver sur les Champs-Élysées. Là, on a l'impression que Greta Thunberg va débarquer à Bordeaux et va raser.
C'est pas la pire des choses qui pourraient leur arriver.
Mais franchement, il faut regarder les choses un peu plus calmement.
Mais d'un autre côté, on nous explique aussi que ce vote écolo, il est dû aux bobos des grandes villes et pas aux ruraux.
C'est peut-être, moi, c'est là où.
Mais c'est pas vrai, ça.
Mais c'est là où. Moi, la seule question que j'ai sur les écolos, écolos, c'est est-ce que les écolos sont-ils encore de gauche? Moi, j'ai plus cette question-là. Mais bon, j'en ai
qu'ils sont sérieux. Moi, je crois qu'ils sont sérieux.
Mais je ne suis pas sûr.
Quelqu'un nous a dit que c'était comme la pastèque, vert dehors et rouge dedans.
D'où vient cette idée qu'il n'y a pas d'électorat écolo dans le monde rural? Vous regarderez dans les 30 000 élus qui ont été élus au premier tour, le nombre d'écolos qui ont été élus dans le monde rural. Il y en a des centaines. Alors, il faut arrêter avec ça. C'est comme si le monde rural était totalement différent du monde urbain. Tout ça est une vision absolument non réelle de la situation du pays au niveau des gens qui ont été élus.
Vous avez raison. Ceci dit, comme je le disais au début de l'émission, il faut rappeler que c'est quand même une grande victoire pour la droite et le centre-droit de ces élections qui sont en écran. Il y a un graphique qui est publié depuis hier dans Le Monde. Je vous invite à le regarder. Ils n'ont jamais fait autant. Il y a 10 grandes villes aux mains des Verts. Le PS n'a jamais fait aussi peu. Il faut relativiser un peu. Bon.
Allez. Oui, Jean-Luc.
On relativise. Je suis d'accord avec ça. Il faut relativiser par rapport au nombre d'élus qui ont été élus dans les 30 000 au premier tour.
Jean-Luc, ne
lisez. Il y a quand même un candidat vert potentiellement qui peut être au second tour en 2022. Moi, je ne dis pas que ce sera le cas. Ce n'est loin d'être certain, mais c'est dimanche, les conditions sont virtuellement réunies pour que ça puisse se passer.
Jean-Luc, ne lisez pas les Échos aujourd'hui, le titre de l'édito de Dominique Seux, c'est des Khmer verts, Khmer, K-H-M-A-I-R-E-S. Pas mal le jeu de mots.
C'est amusant.
Mais il dit des Khmer verts, peut-être, mais pas sûr. Donc voilà, vous le lirez quand même parce que c'est un très bon édito de Dominique Seux dans les Échos.
Absolument.
Merci à vous, on se retrouve demain et dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous.